19h03, vous écoutez France Culture tout de suite, c'est le rendez-vous avec vous Laurent Goumard.
Merci Sarah Petit. Bon, on vous retrouve à 22h pour le journal, alors à tout à l'heure.
J'assume une fonction, je ne joue pas un rôle, je suis pleinement président.
Je préfère un excès de caricature plutôt qu'un excès de censure.
Le pouvoir donne à la personne qui l'exerce une mission qui doit l'élever.
Plus tu leur rentres dedans, plus ils sont contents.
Eh bien, ça va être frontal ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de prénoms, de violences sociales, du bruit de couloir, de salon du livre et même de mocassins portugais. Avec Mathieu Sapin qui signe Le Château, une bande dessinée pour un dessinateur infiltré pendant plus d'un an au cœur du pouvoir, Émilie Chaudet.
Retour sur le parcours d'un auteur au coup de crayon documentaire, attiré par les lieux de décision plus que par les gens de pouvoir.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, à votre programme, un mot en un seul.
Xavier. Mathieu Sapin vous dessine.
Ah d'accord, la dernière fois qu'on m'a dessiné, je ressemblais à Charles Aznavour en très mauvaise santé.
Vous êtes pas mal.
Ah d'accord, c'est super. Ça n'empêche pas que vous pouvez nous dire le titre de votre...
D'un concept dont je ne suis pas très sûr.
Ah d'accord, et quel est-il?
La dissonance cognitive.
Ok. 19h35, plateau Vanité avec Igor Gran qui publie La Revanche de Kevin, une farce sur les impostures du milieu littéraire qui prend pour cadre la pensée circulaire de la maison de la radio. Émilie.
Quand le prénom demeure au centre d'une bataille sociale perdue d'avance, l'occasion de revenir sur l'œuvre d'un écrivain qui caricature sans pitié du milieu humanitaire jusqu'au salon littéraire.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Espèce que l'on ouvre sur le son du jour.
Il est 6h, move on it. Move. C'est parti pour le flash info d'Anne-Laure La Balette. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Zoé Esfez.
Bonjour Laurent Goumard, bonjour à tous.
C'est votre son du jour et il est cool.
Il est cool, c'est le nouvel habillage de Move, donc la chaîne jeune de Radio France, lancée, relancée en février avec une nouvelle ligne éditoriale et donc un nouveau nom, puisqu'elle s'appelait avant Le Move. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, a indiqué ce jeudi qu'il n'excluait pas de la transformer en radio numérique, c'est-à-dire en web radio, et d'abandonner sa diffusion FM. Aujourd'hui, on la trouve sur 32 fréquences à travers la France, si son audience restait aussi faible qu'aujourd'hui, et ce pour faire évidemment des économies. Déclaration faite devant la commission de la culture du Sénat qui l'auditionnait ce matin. Il donne 18 mois à la chaîne pour sortir du tout petit 0,5% de part d'audience dans laquelle la chaîne reste encore et toujours bloquée. Par ailleurs, Mathieu Gallet a réaffirmé que pour redresser ses comptes, Radio France devrait probablement recourir à l'emprunt d'ici 6 à 7 ans.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Un hommage à Claude Durand, écrivain, traducteur et surtout éditeur qui s'est éteint à 76 ans. Surnommé le pape de l'édition, il a dirigé pendant 30 ans les éditions Fayard et en a fait le fleuron des éditions Hachette. Il fut lui-même aussi auteur, mais avant et après son activité d'édition, car il considérait qu'elle ne tolérait aucune distraction.
Oui, alors Claude Durand, c'est un destin assez exceptionnel. Un homme qui était d'abord et avant tout instituteur, qui est entré avec Lauriers et Fracas en littérature. Il a reçu en 79 le prix Médicis pour son roman La Nuit zoologique. Et qui est devenu en même temps éditeur au Seuil à 20 ans à peine. Il a permis au public français de découvrir l'écrivain colombien Gabriel García Márquez en 67 avec son temps de solitude qu'il a lui-même traduit avec la complicité de son épouse Carmen. Et puis surtout, il y a une rencontre qui va marquer sa vie et surtout sa carrière d'éditeur, celle d'Alexandre Solzhenitsyn qui vient de se faire expulser du RSS et dont il devient à la fois l'ami et surtout l'agent et l'éditeur, comme l'explique Georges Niva, spécialiste de la Russie, traducteur de Solzhenitsyn et ami de Claude Durand.
L'élément de confiance est apparu tout de suite. Il est un petit peu énigmatique, si vous voulez, paradoxal, puisqu'il se parlait en anglais, l'un comme l'autre parlait mal l'anglais, donc il n'avait pas un médium vraiment satisfaisant pour leur rapport, l'échange se faisant par la lecture. Et la confiance entre lui et Alexandre Solzhenitsyn et son épouse, Natalia, a fait que cet énorme héritage littéraire de Solzhenitsyn qu'il avait pris dans un désordre complet, pillé par des quantités d'éditions pirates et d'imposteurs variés dans de nombreux pays et de nombreuses langues, il avait tout remis en ordre. Natalia Dmitrievna m'a dit « Sans lui, ce serait différent ».
Claude Durand prend ensuite la direction des éditions Fayard et en fait en 30 ans l'une des plus grandes maisons d'édition généralistes en France.
Il y publie donc Solzhenitsyn, mais aussi accompagne la carrière littéraire de certaines personnes qui viendront des figures de la littérature de la seconde moitié du XXe siècle, Jacques Attali, Julia Kristeva, mais aussi il n'a pas peur de le faire de grands écrivains populaires comme Régine Desforge avec La Bicyclette Bleue, c'est lui ça, ou Madeleine Chapsal. Il y forme aussi plusieurs générations d'éditeurs comme Sophie de Closet qui aujourd'hui est devenue PDG des éditions Fayard.
C'était un personnage assez réservé, très gentil, très précis, très chaleureux, mais c'était pas un homme de parole, c'était un homme d'écrit avant tout. Extrêmement attentif, il comprenait tout en un clin d'œil et sa rapidité d'exécution et de décision était assez impressionnante, c'est-à-dire que vous entriez dans son bureau, vous vous approchiez du bureau en expliquant la raison pour laquelle vous étiez là, que vous n'aviez pas le temps de vous asseoir parce qu'une fois que vous aviez atteint la table, il vous avait dit ce qu'il fallait faire et vous pouviez repartir pour travailler en sachant très précisément ce qu'il fallait que vous fassiez. Et puis ensuite, tout son temps, son énergie, sa force vitale était tournée vers les auteurs et vers les textes. Et ça, cette priorité absolue du fait que nous étions là pour servir des auteurs, c'était vraiment ce qu'il habitait. C'est-à-dire qu'il publiait les livres que d'autres n'avaient peut-être pas le courage de publier parce qu'ils pouvaient leur valoir des ennuis, et puis des livres que d'autres n'osaient pas publier parce que sur le papier, ça paraissait financièrement invraisemblable.
Et Claude Durand publie aussi énormément de documents et d'essais marquants.
Et notamment ceux de l'écrivain et journaliste d'investigation Pierre Péan, qui a publié chez lui notamment Affaires africaines et évidemment La face cachée du monde. Il salue aujourd'hui un éditeur et un ami hors pair.
J'ai reçu un SMS ce matin qui me disait « T'as eu de la chance d'avoir un éditeur aussi couillu ». Et c'est vrai que j'ai plusieurs livres. Le premier, Affaires africaines, était l'objet de menaces physiques, de menaces d'un État. Et il était imperturbable. Et donc, on avait une complicité extraordinaire quand on montait ensemble, je dis bien ensemble, quand on montait des coups. C'est un personnage aussi, donc j'admirais l'écriture, donc je suis pas le seul. Quand je présentais mes manuscrits avec sa petite écriture, il n'hésitait pas à beaucoup fignoler, travailler. Quand il avait fait ce ponçage, je n'avais au fond pas à relire tellement il savait exactement ce que je pensais et qu'il le mettait plus en valeur que je pouvais le faire moi-même.
Voilà, à la fin de sa vie, Claude Durand s'est retiré des éditions Fayard. Il s'est remis à écrire, même s'il a continué de s'occuper de ses auteurs chez Fayard. Il a fait plusieurs livres, dont les deux derniers sont de véritables satires du monde de l'édition et notamment du système des prix, contre lequel il était assez remonté, puisque lui, en 30 ans de carrière saluée unanimement aujourd'hui, eh bien, il n'a jamais réussi à obtenir un seul prix Goncourt.
Et tout de suite, Zoé, on passe au brève.
Il y en a peu, on l'ouvre avec le musée Picasso qui revendique aujourd'hui 500 000 visiteurs en 6 mois. C'est un record absolu. Il a ouvert en octobre dernier, je le rappelle, dans l'un des plus beaux hôtels particuliers du Marais. Après 5 ans de travaux et une nomination à sa direction assez polémique, il est le musée qui accueille aujourd'hui le plus de pièces du maître au monde.
Enfin, la nomination n'est pas polémique, hein, parce que la réputation de Laurent Lebon est parfaitement reconnue. Simplement, il y avait eu des problèmes autour de cette nomination, puisque la directrice avait été purement et simplement virée. Une souscription pour finir, le dernier film d'Orson Welles.
Tout à fait, 3 producteurs américains ont lancé aujourd'hui une souscription sur Internet à laquelle vous pouvez participer pour rassembler les fonds nécessaires, 2 millions de dollars, pour l'achèvement de The Other Side of the Wind. C'est la dernière grande œuvre du réalisateur de Citizen Kane qui n'a pas réussi à terminer puisqu'il est mort avant.
En fait, il y a plein d'œuvres d'Orson Welles qui n'a jamais fini.
Voilà, enfin, mais
tout
temps,
son répertoire, d'ailleurs, de tout son parcours est rythmé d'œuvres inachevées.
Comme tous les grands, finalement, Laurent.
Exactement.
Quelle est votre œuvre inachevée? On ne sait pas.
On va passer pas faire d'arrêter cette émission en plein cours, par exemple.
Ce serait
la preuve de mon génie. La dernière.
Alors, ben justement, je vais vous raconter une histoire de génie qui n'en est pas un, mais qui finira peut-être par en être. C'était un homme qui voulait être une star et qui finira concrètement par le devenir, puisque je vais vous parler de Mamoru Samuragochi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom, Mamoru Samuragochi? C'est un homme qu'on a surnommé le Beethoven. Dans un premier temps, le Beethoven japonais, avant de l'appeler ensuite le faux Beethoven. On apprend aujourd'hui qu'il va y avoir un film. Non mais attendez, c'est très très drôle cette histoire, parce que cet homme, il est devenu, juste après, dans les années 90, il a incarné le stéréotype de l'homme plus fort que le handicap, puisque c'était un compositeur de musique de film et surtout de jeux vidéo, et qu'il y a la chaîne publique NHK qui lui a consacré, dans les années 90, un film sur sa vie, et notamment sur sa symphonie numéro 1, Symphonie Hiroshima, donc qui, en hommage aux victimes d'Hiroshima. Et on découvrait dans ce film un homme seul avec des lunettes noires, sourd, génie absolu, qui avait composé donc trois très grandes symphonies, dont celle-ci. Un homme qui n'entendait plus et qui
donc
composait simplement.
D'où l'histoire de l'homme plus fort que son nez.
Voilà, d'où l'homme plus fort que son nez, d'où l'histoire de Beethoven, puisqu'il était censé être sourd et ne composer qu'à travers les souvenirs qu'il avait gardés du solfège. Un génie, un homme qui savait mettre la création au-dessus de tout. Après le tsunami meurtrier de 2011 à Fukushima, eh bien carrément, cette fameuse symphonie était devenue l'hymne officiel, la symphonie de l'espoir, jouée pendant la fameuse cérémonie en hommage aux victimes. Sauf que, début 2014, le masque est tombé. Voilà, on avait cette espèce de silhouette massive avec un type avec des cheveux longs et des lunettes. Et en fait, finalement, il a tout enlevé. Il a fait une conférence de presse interminable qui a duré 6 heures, dans laquelle on avait l'impression qu'il allait dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à dire. Et finalement, il était tout banal. Il a finalement avoué qu'il n'était pas si sourd, qu'il avait juste un petit problème à l'oreille gauche et surtout qu'il avait employé un nègre, qui était un professeur à l'école de musique, pour écrire ses symphonies. Et que donc, tout ça était un personnage absolument inventé. Il a fini par révéler son identité parce que son nègre menaçait de le faire. Et bien aujourd'hui, cet homme qui voulait être une star a un film qui est consacré à lui, qui a démarré et qui est réalisé par Tatsuya Mori, un réalisateur assez célèbre. Au final, il sera parvenu à ses fins.
Quelle belle histoire.
Vous avez vu, j'en ai toujours sous le capot.
Je peux imaginer. Il y a d'autres choses que vous avez sous le capot. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités? Cette histoire d'imposture a l'air de vous plaire, Igor Gran.
Oui, l'imposture, déjà, en soi, c'est révélateur quand même. Le fait qu'on puisse confondre comme ça des œuvres, qu'on ne sache pas d'où vient quoi, c'est formidable. Mais aussi, j'ai bien aimé les 5 années de réfection du musée Picasso. J'ai l'impression que dans Paris, là, il n'y a pas une seule rue où il n'y a pas des travaux. Enfin, je voudrais bien qu'on me donne une rue, le nom d'une rue, d'une seule rue, où il n'y a pas de travaux. Ça paraît interminable. Le fait d'enterrer des choses nous procure une jouissance ensuite physique pour aller les chercher et les réparer.
Mathieu Sapin,
Moi j'ai un papa archéologue, donc ça...
il est peut-être responsable de ce qui se passe dans Paris actuellement.
Non, oui, lui il n'est pas dans la partie des archéologues qui sont obligés de chercher à cause des travaux justement. Mais j'aime bien les fouilles.
Et cette histoire d'imposture, ça vous inspire quoi?
Bien sûr, quand on est créateur, on a toujours ce sentiment un peu de est-ce que j'emprunte à qui ça n'existe pas, quelqu'un qui crée à partir de rien. Donc il y a toujours un questionnement par rapport à cette histoire de vol artistique. Ouais.
Le rendez-vous.
C'est pas pour ça que toutes ces personnes vont venir à l'Élysée. Je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. J'aimerais avoir la liste des invités. Et un discours qui soit quand même de meilleure facture que ce qui m'avait été préparé pour l'intervention Jacques Attali. Préparez ça.
Cet après-midi.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver cet après-midi. Donc là maintenant, les discours qui vont arriver, il ne faut pas que ce soit un brouillon. On n'a pas le temps de faire du brouillon. Faut, comme disent les enfants, il faut écrire directement au propre.
Ah, ça, c'est un extrait du documentaire qui avait été réalisé Le Pouvoir. Ouais. Plateau confidentiel avec vous, Mathieu Sapin, auteur de bande dessinée. Vous publiez aujourd'hui chez Dargo votre 46e album, Le Château.
Ah ouais, 46e album.
46e, on a compté. Un par un.
Okay.
Plus d'une année dans les coulisses de l'Élysée pour une bande dessinée dans laquelle vous vous mettez en scène en train de dessiner cette bande dessinée. Ouais. Votre immersion a duré de juillet 2013 jusqu'à juin 2014 avec une séquence ajoutée à la fin de votre album en janvier 2015, le jour des attentats à Charlie Hebdo. C'était prévu que vous reveniez ou normalement c'était fini en juillet?
Non, en fait mon récit officiel s'arrête en juillet 2014, mais j'ai continué à y aller. Pour plusieurs raisons. D'abord, on y prend goût à l'Élysée. C'est-à-dire que c'est un lieu où il se passe toujours quelque chose et on croise des personnalités de toutes sortes qui font... Enfin, moi, j'étais pris, j'avais du mal à quitter le lieu. Et,
comme les présidents précédents.
Oui, exactement. Et puis surtout, j'étais en train de terminer mon livre, même si j'avais terminé le temps d'exécution faisait qu'il fallait que je continue à venir pour vérifier des choses. Et j'étais à la toute fin de la réalisation de mon album quand sont survenus les attentats contre Charlie.
À quel moment, justement, de votre parcours de dessinateur, vous aviez eu l'intention d'entrer à l'Élysée?
Très tardivement. Moi, j'ai jamais imaginé mettre un pied, ne serait-ce qu'un orteil, à l'Élysée. J'avoue que c'est même pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. C'est parce que mon précédent livre sur la campagne présidentielle s'est terminé sur une note positive pour le candidat que je suivais, et qui est devenu président, que je me suis dit, je connais quelqu'un qui est devenu président de la République, donc c'est peut-être l'occasion de voir en quoi ça consiste.
Les tractations ont été difficiles? Pour pouvoir accéder.
C'est pas difficile, c'est-à-dire qu'on m'a jamais dit non, on m'a jamais dit oui non plus. Et ça, c'est pour ça que la référence un peu à Kafka, il y a un côté comme ça, où on ne sait pas, pendant de longs mois, je ne savais pas si j'étais éjecté du projet ou pas.
La première chose que vous ayez dessinée, c'est quoi ?
C'est un meuble, ah ouais, c'est un ventilateur. Un ventilateur en attendant la salle d'attente du conseiller en communication, puisqu'on attend forcément entre deux rendez-vous. Et moi, dessiner, c'est comme un doudou. C'est-à-dire que quand je dessine, ça me rassure. Je suis chez moi, partout. Et en face de moi, il y avait un ventilateur. C'était en juillet.
Et le dernier ?
Et le dernier, mais c'était hier, parce que je suis allé faire des dédicaces pour certaines personnes du personnel, parmi le personnel de l'Élysée, et j'ai dessiné, qu'est-ce que j'ai dessiné ? Un parapluie. Voilà.
D'un ventilateur à un parapluie. Émilie ?
Après les tractations qui ont précédé votre entrée à l'Élysée, vous avez eu accès, on dirait, à presque tout. Vous avez, on peut voir donc la fleuriste, les cuisines, la salle de presse et pas mal de bureaux privés. Vous avez pu approcher les personnalités qui gravitaient parfois autour du président de la République. Est-ce que vous avez eu des interdictions à un moment, des portes fermées ?
Non, la seule, c'était le fameux bunker blindé. On n'a pas ouvert le bunker, mais je crois que personne n'y va tellement finalement.
Qu'est-ce que c'est que ce bunker ?
C'est un bunker en cas, j'imagine, de guerre nucléaire, mais ça remonte aux années de Gaulle, hein, donc il faut se mettre dans le contexte. Ici aussi, d'ailleurs, je crois qu'il y a un bunker. C'est au cas où le président peut se réfugier là. Il n'y aura plus personne dans Paris, mais le président sera encore là.
Igor Grand, je sais que vous n'avez pas reçu la revue à temps, enfin la revue. Ouais. La bande dessinée à temps, vous l'avez eu juste eu là, le temps de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose, puisque j'ai vu que vous l'avez parcouru très rapidement, qui vous a marqué ?
Ouais, la photo, la première photo du président est très drôle. Franchement, voilà, c'est
le dessin.
Le dessin, pardon.
C'est bien, c'est bien. Ça veut dire
qui est repris, donc la photo reprise en dessin.
La photo du président, c'est-à-dire quel regard justement vous aviez, vous, dessinateur, sur cette photo très fameuse ?
Bah moi, je l'aime beaucoup, cette photo. Mais
carrément de pardon.
C'est une photo qui a été beaucoup commentée dans tous les médias, mais aussi là-bas, au château, j'ai noté notamment un journaliste qui est manifestement pas du tout convaincu et qui la trouve pompeuse, mal foutue. Et plus tard aussi, ça je ne l'ai pas mis dans l'album, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'album, donc je ne pouvais pas tout mettre, mais je me rappelle aussi d'un photographe qui me dit « Toi qui es artiste, qu'est-ce que tu en penses de cette photo ?» Enfin, on sentait qu'il y avait un questionnement. Ouais.
Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est pas dans une bande dessinée de caricature, ce qui est plutôt souvent le cas hein, quand la bande dessinée s'intéresse à de la politique, c'est plutôt de ce domaine-là. Sauf par exemple avec Quai d'Orsay, qui était aussi, même si c'est une BD d'ordre humoristique et comique, elle travaillait quand même du côté du reportage. Ça voudrait dire qu'il y aurait une autre façon d'envisager la politique par le dessin depuis quelques années. Moi, ça viendrait de quoi ?
Moi, depuis quelques albums, j'ai fait ce que j'appelle des documentaires BD. Donc là, c'est sur la politique. Mais auparavant, j'en ai fait sur la presse ou sur le cinéma. Donc là, je parle de... Moi, je préfère dessiner les politiques de visu plutôt que de dessiner d'après un dessin qui est lui-même une interprétation d'un dessin, qu'il y ait plusieurs médias entre moi et le sujet. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans ce palais, et donc je préfère, ma ligne, c'est que je dessine principalement ce que je vois vraiment. Je n'invente pas des choses, ce qui est facile en dessin d'inventer, mais je dessine que ce à quoi j'assiste.
Émilie.
Ce qui est intéressant dans votre bande dessinée, c'est la mise en scène du off. Il y a deux personnages que l'on voit avec un rectangle noir sur les yeux, notamment lors d'un déjeuner off, d'une séquence que vous intitulez comme ça. La plupart du temps, vos personnages sont quand même visibles et bien représentés. On peut en reconnaître certains, des journalistes politiques notamment, qui vous balancent des choses plutôt frontales sur François Hollande. On peut entendre on peut lire. Oui. Son problème, c'est qu'il est tout seul. C'est une journaliste qui vous le dit. Ou son problème, c'est qu'il ne méprise pas assez les journalistes. Donc des conseillers vous disent des choses plutôt brutes sur le président. Les journalistes et les collaborateurs d'ailleurs parfois. Mm-hmm. Qu'est-ce que François Hollande vous en a dit lui-même ?
Moi, j'ai pas encore son retour. L'album sort aujourd'hui, donc j'ai pas eu de réaction de sa part.
Vous lui montriez des planches en avant-première parfois ?
Non, j'en ai montré quelques-unes à son conseiller en communication.
C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans le bande dessinée.
Moi, je mets tout. C'est-à-dire que même les coulisses, même la fabrication du livre, et même à la toute fin, un commentaire sur le choix du titre, j'explique au conseiller. J'appelle ça le château, il n'est pas très content parce que ça ne donne pas une vision très démocratique du lieu. Mais moi je trouvais très intéressant d'avoir la parole des journalistes. Alors on peut les reconnaître quand on est un peu dans le milieu, mais sinon je ne donne pas les noms. Et ils ont une parole très libre, très libérée, qui est intéressante, parce qu'on ne va pas retrouver cette même parole dans les articles, par exemple. Et voilà, et puis ça me permettait d'éclairer des points qui me semblaient voilà, peu clairs.
Jamais aucune autocensure dans la façon que vous avez eu de travailler et plus tard de concevoir cet album, puisque vous avez évacué pas mal de dessins, j'imagine.
Bien sûr qu'il y a de l'autocensure, il y en a en permanence.
Mais vous avez identifié certains points.
Mais en tout cas, de manière formelle, c'est la vie privée, moi je ne m'y intéresse pas. Et je crois vraiment en plus que ça ne m'intéresse pas. Mais donc, il y a des gens qui sont déçus parce que je ne vais pas dans la chambre à coucher où je ne parle pas des affaires de mœurs. Où j'en parle quand ça devient une affaire d'État, c'est-à-dire quand des journalistes, dans la conférence de presse par exemple, s'expriment dessus. Donc voilà, il y a cette question de la vie privée. Après, je fais attention à pas non plus mettre des personnes dans des situations vraiment problématiques, parce que des fois ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, je mets pas les noms, des choses comme ça. Ouais.
Et vous les dessinez un peu moins bien?
Moi, ce qui m'intéressait, c'était le propos, où par exemple un journaliste tient un propos que je trouve intéressant. Donc le propos, je ne le déforme pas, mais il peut m'arriver de changer effectivement l'apparence de l'interlocuteur.
Une autre question sur la dimension documentaire de votre travail depuis quelques années. À partir de quand vous avez interrogé cette piste dans votre parcours de dessinateur?
C'est pas moi qui. L'idée n'est pas venue de moi, c'est un camarade qui s'appelle Lewis Trondheim qui m'a suggéré de suivre le tournage du film Gainsbourg vie héroïque, qui était réalisé par un autre camarade, Johan Sfar.
Et il m'a dit. Dessinateur lui-même, oui.
Dessinateur, et donc pour l'occasion réalisateur. Et donc Lewis Trondheim me propose de suivre quelques jours le tournage et de raconter ça. Et en fait, de quelques jours, je suis resté tout le tournage et l'après-tournage. Et au départ, je pensais faire quelques pages, 4-5 pages. Et à l'arrivée, j'en ai fait 500. Et je me suis vraiment pris au jeu. Et mon moteur, c'est vraiment la curiosité. Je me dis que si moi, je suis curieux de certains faits, le lecteur va être curieux aussi. Et donc, tant que je suis excité par ce que je vois, je continue.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de dessiner? Oui,
parce que j'ai un dessin qui est un peu naïf, mais qui est en même temps très précis. Et quand on fait un album comme Le Château, il faut être très. C'est un contrat qu'on passe avec le lecteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il admette que tout ce qu'on lui raconte est vrai. Donc tout doit sembler crédible et être crédible. Et d'ailleurs, je prenais pas mal de photos qui m'aidaient, que je montre pas, mais qui m'aidaient, moi, à reconstituer des décors qui sont très compliqués à dessiner comme ça directement.
Il y a quelque chose que vous aimez particulièrement dessiner en tant qu'auteur de bande dessinée?
Les gens. Moi, j'aime les gens. C'est souvent le point commun entre mes différents livres dans ce genre-là, c'est des groupes humains. Et moi, j'adore ça. Et montrer les rapports entre tout un groupe avec les tensions. Et en même temps, il y a une dynamique qui va dans une certaine direction. Et c'est passionnant. Ouais.
Est-ce que vous aviez lu la bande dessinée Quai d'Orsay, qui, on pourrait dire, ne préfigure pas ce qui se passe dans cet album, mais qui en est quand même
dans la même
tradition? Quai d'Orsay
est complètement, indépassable et indépassé. Et est dessiné par Christophe Blain, qui est un de mes meilleurs amis, qui travaille en face de moi dans mon atelier depuis 15 ans.
Donc, vous partagez l'atelier avec
oui,
lui?
Oui, donc évidemment, Quai d'Orsay, j'en ai une connaissance intime. Chaque page, je les ai eu les originaux sous les yeux. Mais c'est marrant, d'ailleurs.
Émilie.
Mathieu Sapin, comme à chacun de nos invités depuis le début de la saison, tous les soirs, nous vous avons demandé de venir avec un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Ça ressemble à tous les marchés du monde. Chacun apporte ses fruits, les fruits qui sont de son travail, de sa région, les animaux de ses fermes.
Mais est-ce que tu penses que si on revient par exemple dans 15 ans...
C'est pareil.
Tu penses que ça ne change pas?
Ça ne changera pas. Dumas aussi a été très marqué par cette visite. Comment ça s'appelle? Parce qu'avant ça s'appelait Nuka.
Nuka. Chaki.
Maintenant c'est Chaki.
Chaki.
Avant, ça s'appelait Nuka.
Nuka.
Je pense que
Nuka.
C'est Nuka, oui. Bon. Tu veux le voler? Parce que tu penses que Dumas, que Moinet se permettait de reprendre Dumas?
Oui.
Souvent, oui. En tout cas, bon appétit.
Bon appétit. Identification de ce son, Mathieu Sapin, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Ben, moi, c'est un documentaire auquel j'ai eu la chance de participer, de donner la réplique à Gérard Depardieu, qui est passé sur Arte il y a un an. Et je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure justement par le biais de bandes dessinées comme Le Château. C'était après la précédente donc sur campagne présidentielle, un producteur est venu me trouver pour me proposer d'accompagner Depardieu dans le Caucase et de faire un road trip. Et donc moi, j'étais en tant que dessinateur, je devais faire une espèce de... On reprenait la route d'un récit d'Alexandre Dumas qui avait fait un voyage dans le Caucase. Et donc Depardieu était un peu censé reprendre la filiation de Dumas, et moi je l'accompagnais. Et donc il y avait des échanges assez savoureux. Et j'ai eu la chance d'avoir Depardieu qui m'a dit « Tu veux une volée ?» Et quand il vous regarde comme ça, c'est vrai que ça impressionne. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur.
Vous l'avez dessiné ?
Ah oui, j'ai passé mon temps à le dessiner. Oui.
Vous l'avez montré ?
Oui, ouais, bien sûr. Et puis j'ai très envie de continuer. La première fois que je l'ai dessiné, d'ailleurs, c'était pendant la campagne présidentielle, parce qu'il avait pris la parole lors du congrès de Villepinte de Nicolas Sarkozy. Et c'était une prise de parole improvisée. Donc il y avait 80 000 personnes tétanisées, parce que Gérard Depardieu n'était pas tout à fait clair ce jour-là. Et c'était un vrai moment de direct, comme on dit.
Et comment on dessine Gérard Depardieu en évitant l'image de la caricature que l'on voit souvent, en fait? Quand on voit un dessin de Depardieu, c'est tout le temps une caricature.
Ouais, mais c'est comme je disais tout à l'heure pour François Hollande. C'est-à-dire que moi, j'ai mon sujet directement en face de moi. Donc le dessin, on essaye de ne pas attraper des tics et d'en développer qui soit propre, mais qui, en tout cas, de faire une simplification à partir de l'original.
Émilie.
Cette année 2013-2014, vous l'avez quasiment passée entièrement à l'Élysée. On voit très peu, au final, le président. On voit surtout les proches collaborateurs, les petites mains, tous les gens qui gravitent dans ce lieu et autour de lui. Quelles questions vous posait ce lieu au départ ?
Il vous dit lui-même que ce n'est pas une maison à secret. Vous avez l'air un peu déçu.
Oui. Bah évidemment, quand dès les premières pages, le président me dit de toute façon, il n'y a pas de secret à l'Élysée. Je trouvais ça assez fort de café. Et puis après, c'est lui qui le dit. Il était là depuis quelques temps. Finalement, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'il n'y a pas de secret. Mais encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vraiment fait le tour de ce lieu. J'essaye en tout cas d'être le plus exhaustif possible. J'ai fait même des plans. Je donne les plans de la maison et j'essaye de montrer comment. Ce lieu, finalement, a quand même une incidence sur la politique française, puisque on le sait, un lieu de pouvoir, mais c'est un lieu qui n'est pas anodin, qui est très, je dirais, tourné vers une forme de spectacle. Il y a des salles entières qui sont dédiées à la communication, enfin à l'image, pour impressionner les visiteurs. On est on cultive volontiers ce côté fastueux et qui fait référence à une époque révolue. Et il y a plein de salles, d'aspects du lieu qui ne sont pas pratiques du tout. Quand on pense à la modernité d'aujourd'hui de l'information, c'est complètement incohérent avec le passé évoqué par le lieu. Donc tout ça m'a interrogé. Et puis aussi, c'est un lieu qui est très fermé sur lui-même. C'est-à-dire que quand on est dans la cour intérieure, toutes les fenêtres donnent sur cette cour, on se regarde, on est regardé. Mais par contre, de l'extérieur, c'est des murailles avec des petites fenêtres, avec des barreaux. Donc c'est vraiment un lieu replié sur lui-même.
Est-ce que vous pensez qu'une telle bande dessinée, un petit peu comme le documentaire Le Pouvoir qui avait été tourné il y a peu de temps, peut avoir une incidence sur la réflexion politique aujourd'hui ?
Alors voilà,
dans le débat,
j'en serais étonné. En tout cas, c'était pas mon propos. Mon propos, c'était vraiment que la plupart des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'Élysée puissent.
Vous voulez dire que ça évite une journée du patrimoine ?
Non. C'est pas le côté patrimonial. C'est le côté justement toutes les questions les fantasmes qu'on peut imaginer sur ce lieu. Donc j'essaye de donner l'occasion de rentrer dedans, mais pas... Non, c'est pas le côté belle pièce. Justement, j'essaie de me démontrer, de pas me laisser impressionner par les belles salles, et puis de montrer tout, les sous-sols, même les aspects les moins ragoûtants.
Et quel regard vous aviez eu, justement, sur le reportage? Sur le documentaire qui avait été tourné, sur le pouvoir.
Il y a eu beaucoup de documentaires, c'est ça qui est étonnant, c'est que là, même très récemment, il y en a eu de nombreux. Le pouvoir, comme son nom l'indique, c'était vraiment plus sur l'exercice du pouvoir de François Hollande. J'avais l'impression, en le voyant, que c'était pas complet. C'est-à-dire qu'ils sont restés 6 mois, je sais qu'ils ont été très contraints, c'est très difficile de filmer, même si on a tous les accès possibles. La caméra fait que on est toujours, on crée une espèce de On n'est pas naturel devant une caméra. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester un an, même au-delà, puisque finalement un an et demi. Et je me suis employé à me faire oublier. Donc, je m'habillais comme les gens qu'on croise là-bas, c'est-à-dire en costard-cravate.
C'était la première fois ?
Ouais, tout à fait.
D'où l'achat des mocassins portugais.
Voilà. Et donc, me faire oublier pour que les gens ne fassent plus attention à moi et que la vie reprenne comme si de rien n'était. Donc, sur le film, par ailleurs, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et la séquence que vous avez passée tout à l'heure, c'est pour moi une des plus intéressantes où on voit un François Hollande qui est pas du tout sympa et qui peut s'énerver et être même assez cassant. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Mais après, j'avais l'impression qu'on aurait voulu en voir plus. Et je pense que même que l'équipe qui a réalisé le film, peut-être, ils auraient aimé pouvoir poursuivre plus longtemps l'exercice.
Le rendez-vous, la chronique.
Mathieu Sapin et Yegor Gran, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite la chronique du jeudi, donc la chronique hebdomadaire de Xavier Delaporte, Place de la Toile, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef. Aujourd'hui au programme, un concept que vous ne maîtrisez pas vraiment, j'en suis sûr que...
Oui, non, c'est vrai, je ne le maîtrise pas, mais j'y arriverai par la suite. D'abord, les hommes et les femmes politiques sont décidément une espèce étrange, victime de syndromes étranges. Alors prenons l'exemple de leur rapport au numérique. On peut faire l'exercice de rassembler dans le désordre quelques événements de ces dernières semaines. Aujourd'hui même, les mêmes qui ont voté les yeux fermés mardi dernier, ou simplement soutenu quand ils n'étaient pas députés, la loi sur le renseignement, qui ont donc approuvé un texte qui établit une surveillance massive des communications des Français, avec des technologies ultra-intrusives, maintes et maintes fois dénoncées par ceux qui y connaissent un peu quelque chose.
Et vous-même d'ailleurs, il y a quelques semaines.
Ouais, j'ai beau rien y connaître, j'ai été dénoncé. Les mêmes donc qui ne voient pas le problème là-dedans, trouvent pas du tout normal que les juges aient considéré comme légale la mise sur écoute des téléphones de l'ancien président Nicolas Sarkozy et de son avocat, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Sarah Potibon. Pas très cohérent. Mais les Français ne sont pas les seuls à ne pas être cohérents. Regardez Angela Merkel. Toute la classe politique allemande et elle-même s'est émue quand on a appris que la NSA américaine avait mis sur écoute son téléphone portable personnel. En revanche, qui s'est ému que les services secrets allemands aient écouté les communications de hauts responsables politiques français ? Pas tellement Angela Merkel. Et même aux États-Unis, la Maison-Blanche a défendu le système mis en place par la NSA pour surveiller les communications de ses concitoyens et des citoyens du monde entier. Mais a trouvé follement scandaleux le piratage, par des hackers russes sans doute, de boîtes mail de correspondants réguliers du président Obama, ce qui a permis à ces mêmes hackers russes, donc sans doute, d'avoir accès à des mails privés reçus et envoyés par le président des États-Unis où étaient échangées des informations non classées, parce que pour ça il utilise quand même des canaux un peu plus sécurisés, mais tout de même très sensibles. Pour définir cette attitude éminemment étrange, on pourrait donc employer l'expression dissonance cognitive. Alors je sais que scientifiquement, c'est pour ça que je suis dit que je ne suis pas très sûr, la dissonance cognitive c'est un phénomène un peu plus complexe, mais disons, considérons-la ici comme l'incapacité de relier deux connaissances contradictoires, incapacité à considérer qu'il y a contradiction entre ces deux réalités admises. Alors on pourrait rire de ça, et d'ailleurs on le fait tout le temps. Mais en fait c'est assez troublant. D'abord parce que ça rend évidente une grande méconnaissance des questions numériques. Une déconnexion, si j'ose dire, entre une vision très abstraite et lointaine du numérique, à partir desquelles ils statuent politiquement, et des usages qui sont aussi les leurs. Comme si, au moment de prendre des décisions politiques, ils oubliaient leurs propres usages. On pourrait y voir une merveilleuse aptitude à s'élever jusqu'à l'universel abstrait. Ouais, moi j'y vois plutôt une inaptitude à la réflexivité qui est inquiétante, ou alors, ce qui est tout aussi inquiétant, une extraordinaire naïveté consistant à considérer que eux et elles seront par miracle exemptés de ce qu'ils imposent aux autres. Mais c'est troublant aussi parce que ça nous renvoie à nos propres limites. Par exemple, combien sommes-nous à nous élever contre ces systèmes de surveillance massive, je suis premier, qui naissent tous les jours par le monde, et pas seulement dans les dictatures, par exemple hier le Canada a fait passer une loi alors proprement hallucinante, à nous effrayer de cela et à passer nos journées à échanger sur Google, à s'envoyer des mails, à chatter, à stocker des photos, des liens, des documents, etc. Alors bien sûr, Google, c'est pas un état. Google ne peut pas nous accuser de terrorisme, nous mettre en garde à vue, Google n'a pas de pouvoir coercitif. Et il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant l'argumentaire du ministre de la Défense Bernard Cazeneuve quand il a dit en substance « Mais pourquoi vous craignez notre loi alors que vous passez votre temps à tout donner à Google et Facebook ?» Non, Facebook n'a pas ouvert Guantanamo ou envoyé des drones pour abattre des gens dont les comportements obéissaient vaguement au modèle du terroriste en puissance. Mais ce n'est pas cette certitude qui nous rassure et qui nous fait faire ça tous les jours. C'est juste que nous sommes les miroirs de nos hommes et femmes politiques, une autre espèce étrange qui aimerait qu'on la protège de ses propres faiblesses.
Les réactions, ce que vous venez d'entendre, Mathieu Sapin,
Igor
Gran, oui, Mathieu Sapin.
Oui, bah, bien sûr. Moi j'ai passé mon temps à imaginer, et presque, il y a une part de moi qui est un peu romantique, à me dire que j'étais sur écoute. C'est assez excitant. Ouais,
de se dire que... toute cette année à l'Élysée, je pense que peut-être.
Voilà.
Bien sûr, même.
D'ailleurs, nous sommes sur écoute.
Et... bah, ici, je vous le confirme, en tout cas, j'espère.
Non, sérieusement, moi, partant de là, donc voilà, je me dis, de toute façon, je suis sur écoute, donc voilà, tout ce que je dis pourra être retenu contre moi, donc allons-y, quoi.
Vous en avez cherché la preuve ? Vous étiez sur écoute pendant cette année au
château ? Je testais des fois un petit peu. Justement, tout à l'heure, on parlait de Gérard Depardieu, là, du documentaire réalisé par M. Bergougnou, Stéphane. Et donc, comme ils n'étaient pas au courant de cette histoire de documentaire, je me dis peut-être que ça va me créer des problèmes, parce que Gérard Depardieu n'est pas le premier soutien de François Hollande. Donc, il y a des moments où je sentais comme une espèce de froid, de distance de la part des équipes de communication de l'Élysée. Je me disais, ça se trouve, ils ont entendu des coups de fil que j'ai passés à Gérard Depardieu, ou je ne sais pas quoi.
Igor Gran, commentaire sur cette chronique.
Alors, moi, j'ai un brin de nostalgie. Je pense à cette époque où on écoutait les gens sans le dire ouvertement, et je trouve ça plutôt preuve d'une. Là, je trouve pour le coup que c'est une preuve d'une certaine incompétence globale de dire comme ça. On va vous écouter. Non, il faut le faire.
En douce,
oui. D'une manière illégale, en ne laissant pas de traces écrites. Voilà, je crois que c'est le béaba.
Le rendez-vous.
Mon nom est Kevin Bay, j'ai très beaucoup de chance. Papa, c'est Pierre qui roule, accro est ma maman. Et 16 ans déjà passés, un vrai de vrai caïd. Et maman junkie, la nuit tombée me dit.
Plateau Vanité avec vous, Igor Gran, écrivain. Vous venez de signer La Revanche de Kevin aux éditions POL, 12e roman, une farce qui s'appuie sur une double imposture littéraire. Je vais rappeler une des deux parce qu'il y a un twist littéraire. C'est une farce donc autour d'un personnage, Kevin H, qui travaille à la radio, à la maison de la radio. Il en gère les espaces publicitaires et lors d'un salon du livre, il rencontre un écrivain auprès de qui il va se faire passer pour un éditeur sous le nom d'Alexandre Janus Smith. La revanche de Kevin trouverait son origine dans son prénom, Kevin, un marqueur social qui a priori lui interdirait les portes de l'intelligentsia parisienne. Être un Kevin, ce serait une impasse littéraire ?
Oui, enfin disons que déjà on part avec un handicap. Alors, j'ai commencé ce livre un peu sur le mode de la farce et ensuite en progressant je me suis aperçu que c'était... réel. Et ensuite, avec la sortie du livre, j'ai reçu des mails de Kevin.
Des témoignages de Kevin.
Des témoignages. Un Kevin m'écrit, j'ai fait Sciences Po, et malgré tout, on me dit sans arrêt, on me renvoie à mon prénom. Donc c'est quand même étrange, cette histoire. Avec, en même temps, c'est un des prénoms les plus attribués au début des années 90. Même premier sur la liste des prénoms attribués, loin devant les autres. Donc on a toute une génération, on a créé des Kevin, ex nihilo, qui sont confrontés maintenant à leur prénom. C'est voilà, bizarre.
Vous-même, vous avez changé, non pas de prénom, mais de nom pour écrire. Gran, c'est le nom de famille de votre femme. Votre vrai nom, à vous, c'est Siniavski, qui est celui de votre père, qui était un écrivain dissident en Russie, hein, survivant du goulag, libéré en 72. C'est d'ailleurs à cause de cela que vous quittez justement la Russie avec votre famille pour la France lorsque vous avez 10 ans. Vous ne pouviez pas écrire sous le nom de votre père ?
Oh, si, bien sûr. Mais je trouvais le nom de ma femme très joli. Ça sonnait très bien. Igor Gran. Ensuite, bon, le nom Siniavski, ça fait russe, hein. Et alors, je me méfiais à l'époque et je me méfie encore plus aujourd'hui des étiquettes qu'on vous colle aussitôt. C'est-à-dire qu'on va tout de suite trouver des influences russes dans mon œuvre. Si j'avais un nom chinois, on trouverait des influences chinoises. Japonais, on trouverait le... voilà. Bon, donc c'est extrêmement agaçant et je voulais. Or, il n'y a pas d'influence russe dans mon œuvre.
Enfin, il n'y a rien de Gogol dans votre. Non, je plaisante parce que dans les entretiens, à chaque fois, vous dites quand les gens s'aperçoivent que j'ai des origines russes, ils me disent ah mais oui, il y a du Gogol dans votre littérature.
Mais
il y en a un peu.
Voilà, c'est le
sparadrap. Mais il y en a quand même.
Mais c'est le sparadrap du Capitaine Haddock là. C'est-à-dire que j'ai beau dire qu'il n'y a rien, on me renvoie voilà encore une fois à mon élastique qui renvoie à mon ADN, j'imagine. Mais Non, enfin, pour l'instant, je n'ai rien écrit d'inspiration russe. Enfin,
quelle est votre relation justement à la littérature russe? Et puis on va clore le chapitre sur ce domaine-là.
Bah, c'est une littérature parmi les plus inouïes et spectaculaires du monde. Donc j'adore tout un tas d'écrivains, de Dostoïevski à Gogol, Pouchkin, Bulgakov, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Je sais, Mathieu Sapin, que vous avez lu le roman de Yegor Gran. Il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement intéressé, amusé?
Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Justement, on parlait tout à l'heure du rôle de l'imposteur, enfin du voleur. Il y a beaucoup de ça là-dedans. Et je me demandais, là, donc vous parlez beaucoup du milieu de la radio. Est-ce que vous avez travailler ici, enfin dans la maison de la radio, vous avez passé du temps, ou c'est de l'observation, ou c'est de l'imagination?
Alors déjà, tout ce que j'écris dans tous mes livres est parfaitement réel. Mais bon, c'est une boutade. Non, bien sûr, je ne me suis pas documenté plus que ça sur la radio, pas plus que ça sur les Kevin non plus. Moi, ce que j'aime justement, c'est, enfin, j'assume pleinement le côté fiction de la littérature. C'est-à-dire que je défends vraiment l'imaginaire. Agatha Christie n'a pas passé tout son temps à Scotland Yard, pourtant quand elle décrit un inspecteur de Scotland Yard, c'est plus que crédible. Même si peut-être qu'un inspecteur du Scotland Yard, ou vous qui travaillez à la maison de la radio, me dites, mais c'est pas du tout ça, on n'a pas du tout d'armoire à fourniture avec des...
Il y en a, et elles sont protégées, je peux vous le dire. Elles sont fermées à clé.
Et je fais un aparté, hier j'ai vu l'armoire à fourniture de l'Élysée, j'ai pensé à votre livre. Donc...
Parce qu'il y a toute une histoire autour de cette armoire à fourniture, voilà, qui pourrait se révéler être un objet tendance de design des années 50. Mais ça encore, c'est une imposture, peut-être, du design. Émilie.
Dans votre roman, il y a un binôme d'écrivains qui revient assez souvent comme une ponctuation dans la bouche de Kevin, qui veut prouver l'étendue de sa culture littéraire. C'est Proust ou Céline. Qu'est-ce qui se joue dans ce cliché de la référence culturelle?
C'est la foire aux vanités, bien sûr. C'est-à-dire que on a tous besoin, de sortir par moment, hein, une citation qui va mettre tout le monde à vos pieds. Proust et Céline sont balancés, et d'autres, hein, qui n'ont rien.
Deleuze aussi, hein. Deleuze, voilà. Parce que Deleuze apparaît aussi dans le registre de la philosophie, qui est l'équivalent de Proust ou Céline. Hein.
Oui, sont cités en veux-tu en voilà, parfois sans aucun rapport avec ce qu'on dit, juste pour donner une surface de culture, bien sûr, brillante. Voilà. Oui, surtout, alors quand vous comparez un roman à du Proust ou à du Céline, ce que je vois d'ailleurs sans arrêt dans la critique littéraire, je me dis, alors soit il y a un nouvel Proust, un nouveau Céline qui arrive tous les ans en quantité absolument astronomique, et je n'ai même pas le temps de les lire, parce que alors j'ai vu aussi Voltaire, on compare des gens à Voltaire.
En ce moment, il y a beaucoup de Voltaire, en ce moment, bien sûr. C'est l'effet Charlie.
C'est quand même fort, quand même. Voilà, donc je crois qu'il y a une course comme ça vers le grand qui est assez exaspérante.
Alors, tout à l'heure, vous parliez justement de cette maison de la radio qui sert de décor pour le travail de Kevin. Et alors, si on parle de radio, il faut parler de voix. Et c'est assez important dans votre roman, parce que vous jouez avec celles de vos personnages qui sont marquées par leur façon de parler. Un peu comme chez Dickens, d'ailleurs. Peut-être chez Proust aussi. Par exemple, le chef de Kevin ponctue ses phrases de mots concepts. Il parle, et puis à la fin, il fait efficacité, convivialité, ponctualité, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que c'est le moyen d'en faire une caricature efficace ?
La voix, ça m'intéresse depuis que je suis petit, la voix de l'écrivain. Un des premiers livres que j'ai lu qui m'a marqué par sa voix, c'est Robinson Crusoe. Voilà un type qui raconte à la première personne son séjour sur une île où il n'a jamais mis les pieds. Il n'est d'ailleurs jamais sorti de l'Angleterre. Et donc, forcément, vous êtes pris par cette voix. Vous lisez à la première personne le jeu. Pour le coup, il ne s'est pas documenté sur cette île déserte, il n'y a pas mis les pieds. Et vous êtes obligé de le suivre, vous êtes obligé de le croire. Pour moi, c'est un des tours de force de la littéraire les plus intéressants qui soit. Et un matériau, travailler avec les voix, bien sûr.
Émilie.
Ce roman fait écho à votre cinquième roman, paru chez POL aussi en 2003, Truoc Nog. C'est l'histoire d'un écrivain désespéré d'être potentiellement honoré du prix Goncourt. Dans ces deux romans, vous dépeignez le milieu littéraire dans ce qu'il a de plus consensuel, de plus hypocrite, ce sont vos mots à vous, de plus artificiel aussi. C'est un milieu que vous avez connu, vous, à l'âge de 34 ans, puisque vous avez d'abord été économiste. Qu'est-ce qui a pu fixer chez vous cette image négative du milieu littéraire ?
Bon, il suffit d'aller un petit peu
C'est une pousse au crime, Michel.
Non, mais comme moi, vous allez traîner, je suppose, parfois aux des salons littéraires. Ou voilà, honnêtement, c'est pas un milieu passionnant. C'est un milieu, évidemment, on l'a dit, de vanité, un chaudron de vanité, une sorte d'aquarium où il y a des gros poissons, des petits poissons, mais qui nagent dans la même soupe, qui s'observent, qui comparent leurs listes de livres, qui comparent leurs émissions de radio qu'ils ont eues, qu'ils n'auront pas eues, qui disent « Ah, celui-là, je le connais, il m'a invité il y a 10 ans. » Et puis, le sourire se fiche parce qu'ils se disent « Ah oui, mais il m'a pas réinvité depuis 10 ans. »
Depuis 10
donc,
ans.
Donc, il y a comme ça, vous en connaissez sûrement. Donc, c'est...
Des noms.
Je vais donner tout ça sur une petite liste tout à l'heure.
Vous êtes arrivé tard, ce que venait de dire Émilie, en littérature, à l'âge de 34 ans. Enfin, c'est pas si tard que ça d'ailleurs, ça dépend d'où on se place. Qu'est-ce qui vous a mis en retard, si retard il y a? Alors même que vous aviez écrit très jeune, vous avez même eu été...
Beaucoup de choses. L'adolescence, déjà, m'a mis en retard. J'ai arrêté d'écrire à ce moment-là. Et, enfin, avant, je gribouillais. Hein, je me suis intéressé beaucoup aux jeunes filles. Ça a duré un certain temps.
Ensuite, il y a eu la banque, l'école normale. Mais pour quelle raison, donc, avoir mis de côté la littérature? Vous ne vous sentez pas...
Non. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous entrez dans la littérature, quand vous écrivez quelque chose, c'est vraiment le truc le plus important. Encore une fois, vous l'avez dit, c'est la voix. C'est-à-dire trouver votre voix, la sonorité qu'aura votre texte. Et on peut mettre des années à le trouver. Et ça ne m'angoissait pas du tout d'être en retard. D'ailleurs, je ne me considérais pas comme spécialement en retard. J'étais en pleine recherche, avec tout un tas de projets inaboutis. Bon.
Vous avez reçu le prix de l'humour noir, vous qui détestez les prix littéraires, en 2003 pour votre 4e roman ONG, où vous dépeignez le milieu humanitaire avec la même autodérision d'ailleurs que Microcosme littéraire, c'est-à-dire que tous les milieux se valent un peu. Est-ce que je me demandais, est-ce que vous aviez lu le texte de Thomas Bernard, mes prix littéraires?
Oui, mais alors moi ce qui m'intéresse dans le prix littéraire, bien sûr, c'est que c'est une invention moderne qui est apparue qu'au 19e siècle, suite à la foire au jambon et au saucisson. Donc il y a une sorte de dérive commerciale et on peut inverser le postulat. Quand on prend la liste des gens qui ont reçu le prix Goncourt, même le prix Nobel, il y a tout un tas d'inconnus, d'illustres inconnus. Et on peut dire, finalement, le prix a été attribué au livre le moins bon chaque année, où le prix Nobel, ou le prix Goncourt, récompense le ratage complet de cette année. Et on aurait la même liste. En fait, on aurait quelques grands noms et aussi quelques ratages complets.
Émilie.
Cet humour noir caractérise la plupart de vos romans, mais aussi les chroniques que vous écrivez dans le journal Charlie Hebdo. Depuis 4 ans, qu'est-ce que ces collaborations ont apporté à votre écriture?
Alors, la chronique de Charlie, pour moi, je suis très fier de ça. On m'a donné un espace de liberté hebdomadaire inouï. Je peux écrire sur ce que je veux. Et avec l'angle d'attaque qui me fait plaisir. C'est aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut se réinventer un petit peu et essayer de surprendre soi-même et de surprendre les autres. Donc, en fait, ça m'a appris à voir la réalité, l'actualité, sous le prisme un peu justement de cet humour noir ou du fantastique, du grotesque. On dit la réalité dépasse la fiction, mais il se trouve que c'est vrai quand on regarde comme ça les faits divers ou les faits d'actualité qui se sont succédés comme ça ces dernières années, depuis DSK en passant par Pistorius, on est au-delà de la fiction presque. Mais en fait, on est dans la fiction. C'est ça qui est rigolo.
Au sujet de Charlie Hebdo, je me demandais comment vous aviez compris la prise de position des 240 écrivains américains du Pen Club qui se sont élevés contre le prix du courage à Charlie Hebdo.
Je dirais presque, c'est leur affaire. On peut pas faire l'unanimité.
Quand même. C'est une prise de position d'une grosse partie des écrivains américains, et notamment de gauche en plus.
C'est décevant parce que on voit qu'ils connaissent ni Charlie Hebdo ni cette espèce d'esprit qui nous anime. Voilà, c'est par méconnaissance, j'imagine.
La première chronique que vous ayez signée pour Charlie Hebdo, quel en était le sujet?
Ça remonte à 4 ans, je sais plus si c'est déjà Catali ou qui s'est élevé contre le tabac. Voilà un combat au nom de je ne sais quelle statistique où il commençait par dire sur son blog il y a eu plus de morts par le tabac que de morts pendant la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Donc qui m'a complètement semblé étrange. Comme rapport, et voilà, donc j'ai écrit là-dessus.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Identification de
alors,
ce son.
Les connaisseurs ont reconnu Bruce Lee.
Tout de suite.
Voilà. En fait, c'est un son universel, hein, de rage universel que moi j'ai connu dans mon enfance. Enfin, en arrivant ici, face à la grammaire du français, à l'accord du participe passé, à tout un tas de choses que je n'arrivais pas à maîtriser. Et voilà, c'est une sorte de combat personnel. ça correspondait vraiment à cette époque-là, c'est-à-dire dans le milieu des années 70, tous les garçons imitaient Bruce Lee dans la cour de récréation, et ça me semblait très bien. Voilà, je comprenais ce qu'il voulait dire.
On m'a jamais dit non. Moi, j'aime les gens entre deux rendez-vous. On m'a jamais dit non.
Dans Paris, là, il n'y a pas une seule rue où il n'y a pas des travaux.
Merci à nos invités. Mathieu Sapin, Le Château, apparu aux éditions d'Argo. Yegor Gran, La Revanche de Kevin, c'est aux éditions POL. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Oh, oh. Quand du Cap Horn on approchera, hurra les gars, hurra.
Demain, une émission qui prend le large avec Isabelle Autissier et Jean-Luc Coitalem. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Aïssatou Ndoye, Elsa Béranger, Journal de la Culture, Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Jacques Hubert et Jean-Guilain Meige, et à la réalisation Lise Combe. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, c'est bien?